Baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Phil Frétinier.
Alors, c'est notre troisième numéro de l'émission Baroque et classique dans la France du XVIIe avec Philippe Frétinier. Lors des deux précédents numéros, vous nous avez permis comme ça de dresser un portrait à la fois du moment scientifique, c'est-à-dire ce qui se passe scientifiquement dans ce XVIIe siècle avec la révolution mathématique et la révolution en conséquence du regard porté sur le monde, le déplacement des positions de la science et de Dieu. Et également, vous nous avez dressé à grands traits le portrait historique de ce XVIIe siècle qui commence en France avec Henri IV, se prolongera jusqu'à Louis XIV, avec donc deux rois très importants dans le domaine des arts, dont nous allons parler très bientôt. Et c'est une manière d'aborder la question du classique et du baroque qui est tout à fait surprenante. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme ça habituellement qu'on nous en parle, qu'on en entend parler. Enfin bon. Alors justement, pour ce qui est de votre propre démarche, dans le cadre de cette étude longue que vous menez sur cette question et sur le XVIIe siècle, justement, notamment en France, qu'est-ce qui vous a amené tout d'un coup à vous déporter du regard traditionnel qu'on porte sur la question baroque, dont vous nous avez dit d'ailleurs la dernière fois qu'elle était essentiellement un regard porté à partir du XIXe siècle. C'est-à-dire que, évidemment, il s'est passé des choses au XXe siècle qui permettent de regarder autrement, mais pour ce qui en est de votre recherche à vous, justement, comment en êtes-vous arrivé à vous dire, mais finalement, classique et baroque, ce ne sont pas des catégories si appropriées que ça pour penser les sciences et les arts à ce moment-là?
Alors, par humilité, je dois préciser que je ne suis pas le premier à questionner les termes, les appellations, les courants qu'on donne à des courants historiques pour les distinguer les uns des autres, comme s'ils étaient complètement séparés, autonomes l'un par rapport à l'autre. Depuis une trentaine d'années, un certain nombre d'historiens de l'art, qui des fois, simplement dans leur domaine, mais dans leur domaine néanmoins, d'autres de façon peut-être un peu plus large, comme Pierre-Franc Castel, par exemple, que je pense beaucoup de gens connaissent, un grand historien de l'art. Donc je ne suis pas le premier, mais je m'inscris dans une filiation, et donc effectivement, je questionne ces terminologies, mais pour une raison que tout le monde peut constater en se précipitant sur une histoire de l'art quelconque, où on aura la surprise de découvrir que d'un livre à l'autre, d'une histoire de l'art à l'autre, la même personnalité artistique est qualifiée tantôt de baroque, tantôt de classique.
Hein ? Oui, c'est vrai.
Et on va par exemple qualifier Vermeer de baroque. Parce que effectivement, il y a cette ambiguïté de la chronologie. Hein ? C'est-à-dire que ça se passe dans le temps qu'on appelle le temps baroque, qui est le 17e, mais qu'on appelle aussi le temps classique, entre parenthèses. Alors, ceux qui ont chaussé leurs lunettes du baroque se disent, Vermeer, c'est un contemporain du baroque, donc la peinture baroque, ça comprend Vermeer ou Rembrandt. C'est évidemment absurde. Donc ça a été la première chose que j'ai observée très tôt, puisqu'il y a assez longtemps que je m'intéresse aux arts. Et les termes mêmes, parce que ça voudrait dire, si vous vous souvenez bien, dans une émission précédente, j'ai un peu parlé de Bernin et de Borromini. Oui. Donc ça veut dire qu'il y aurait ceux qui respecteraient la règle et ceux qui ne la respecteraient pas. Alors que les baroques respectent aussi un certain nombre de règles. Simplement, ils introduisent la possibilité de l'invention, du mouvement, de la liberté. Mais on ne peut pas dire que le classique soit dénué de mouvement. Pour autant, je l'expliquerai par exemple dans l'architecture avec l'exemple de Mansart par rapport aux Italiens. Donc ces termes ne sont pas opérants. Alors, Marc Fumaroli avait proposé une nouvelle lecture en utilisant un terme qui n'est pas le premier à utiliser, il ne prétendait pas à être le premier à l'utiliser, mais qu'il a beaucoup utilisé de façon d'ailleurs très très intéressante en parlant d'atticisme.
Donc, le nom de la plaine de l'Attique, et donc
voilà, l'atticisme,
à la Grèce antique,
par opposition à asianisme. Hein. Alors, historiquement, C'est évidemment d'abord au niveau de des auteurs. Hein. Donc, il y avait les auteurs de l'Attique, comme par exemple Platon, donc la langue sans effet superfétatoire, une langue pure. Et puis la langue d'Asie mineure, avec de l'ornement, de la superfétation, et donc même de l'affectation. Et donc, il y en aurait un qui serait moins pur que l'autre. Mais même cette tentative intéressante de séparer les choses entre asianisme et atticisme n'arrive pas à être opérante non plus.
Hein. En même temps, quand vous dites ça, on voit bien que vous placez du côté du baroque quelque chose de plus. Vous parlez de superfétatoire, vous parlez d'ornementation, de complémentation, etc. Donc de choses qu'on ajoute au-dessus, comme une seconde couche au-dessus du classique. Alors est-ce que le baroque, ça serait qu'une couche supplémentaire sur le même fond ou quelque chose comme ça?
Non, parce que là aussi, ça montre bien les ambiguïtés, parce que, par exemple, en architecture, pour prendre des choses parlantes, hein, visuellement, si vous regardez la chapelle du Val-de-Grâce à Paris, vous voyez bien, notamment à la naissance du dôme et sur le dôme, qu'il y a des ornements. Il y a des ornements sur la façade. Alors, l'esprit de finesse et de géométrie français font que ces ornements sont tempérés, sont mesurés par rapport à d'autres formes qu'on peut voir dans d'autres pays, et pas seulement à Rome, mais par exemple dans le courant rhéno-danubien, où les ornements sont...
Peut-être plus chargés.
Sont plus développés, je dirais. Mais on peut pas dire que le langage classique se passe de l'ornement. Il y a des entablements, des corniches, des attiques, des sculptures. Si vous regardez les façades de Versailles, il y a des ornements. Non, je crois simplement que c'est vrai qu'il y a on irait presque du côté de l'anthropologie d'une certaine façon. Il y a deux façons de concevoir l'existence que je vais aborder à travers toujours le phénomène religieux. C'est la question, par exemple, au XIIIe siècle, des Clunisiens et des Franciscains. Hein. Donc la pauvreté, donc le dépouillement, pour rendre compte finalement de la pauvreté du Christ, hein, de la pauvreté au niveau matériel, hein, entendons-nous bien, évidemment. Et puis l'utilisation de l'ornement, de la décoration pour rendre gloire à Dieu. Hein. Et ça, c'est les Clunisiens. Donc on voit bien déjà, d'une certaine façon, atticiste, asianiste, dans le sens qu'on leur donne après. Hein. Donc ça montre bien que tout ça est problématique.
Hein. Mais cette question problématique, cette difficulté en tout cas à cerner les champs avec ces catégories-là de baroque et de classique qui vont amener à vous pencher sur la question.
Voilà. Parce que ça ne dessine pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans un premier temps, des lignes de fracture nettes. Et d'ailleurs, on y reviendra quand on parlera de peinture, mais je peux prendre un exemple comme Simon Vouet. Vouet qui est au tout début du XVIIe à Rome, qui va même y jouer un rôle éminent puisqu'il va être président de la guilde des peintres. Il a un succès important à Rome et il ne rentre en France que parce que Louis XIII le fait revenir, hein, donc à son corps défendant. On peut dire que d'une certaine façon, au départ, il est sensible à ce que je vais appeler l'art romain. Je vais plutôt parler d'art romain et d'art français, hein, dans lequel il y a différentes composantes qui peuvent se côtoyer, s'entrechoquer, coexister, et des fois même cette dialectique va s'exprimer dans des œuvres particulières. C'est-à-dire que...
Alors entendons-nous bien, quand vous dites art romain, art français, chacun de son côté, ça n'est pas une manière de recouper classique et baroque.
Non, du tout. Non, justement, c'est pour essayer de sortir de cette problématique. Alors, je peux expliquer pourquoi il y a art romain et art baroque, parce que comme on l'a déjà dit précédemment, vraiment, surtout au début du XVIIe, à la fin de la Renaissance et le début du XVIIe, c'est à Rome que tout se passe, pour différentes raisons. Le Concile de Trente, j'en ai parlé. Bon, on va y revenir d'ailleurs, parce que le Concile de Trente va jouer à son corps défendant un rôle très important dans la peinture. Et j'expliquerai pourquoi je dis à son corps défendant. Et les artistes français vont pas tous, parce qu'il y a quelques exceptions où il y a des doutes dans certains cas. Par exemple, dans la peinture Georges de la Tour, on sait absolument pas s'il est allé à Rome ou pas. Mais la plupart des artistes français vont aller à Rome parce que comme d'autres, comme les Flamands, Rubens va aller à Rome, Velázquez va aller à Rome, tout le monde va à Rome parce que c'est là que les choses se passent. Puis parce qu'il y a eu la révolution majeure du Caravage, enfin bon, beaucoup de choses. Et donc ça va inspirer, initier un renouveau, par exemple, dans l'art français du XVIIe, qui doit donc des choses à l'art romain, mais qui, encore une fois, va être là aussi dans un mouvement dialectique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être intégrées de l'art romain, d'autres qui vont être discutées, voire contredites. Hein. Et de façon très complexe, parce qu'en fait, il y a des histoires de centre et de périphérie. Alors, il y a des centres géographiques et des périphéries géographiques.
Alors, justement, excusez-moi, je vous coupe juste un instant parce que, en vous entendant parler de périphérie et de géographie, je me demande si l'opposition classique ou la complémentarité classique baroque, elle a quelque chose de chronologique. En général, on définit une période. On ne sait pas toujours très bien dire exactement l'année où ça commence, l'année où ça finit. Ben. Et là, vous passez à un paradigme qui, finalement, est un paradigme peut-être géographique, Rome et la France.
Non, on pourrait dire plutôt, pour être honnête, Rome et beaucoup d'autres lieux. Rome est vraiment le centre. Et puis, dans un premier temps, il y a des périphéries qui sont les Flandres, par un curieux retour de balancier, parce que peu de gens savent peut-être que le véritable envol de la peinture italienne doit beaucoup à la peinture flamande. Mmh. Hein. Donc, là, je ne vais pas l'expliciter parce que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais voilà, dans un premier temps, c'est la peinture flamande qui vient nourrir la peinture italienne, ça décolle, après, tout se passe en Italie. Et donc, dans un retour ironique de l'histoire, les Flamands vont aller à Rome, j'ai parlé de Rubens, on pourrait parler d'Ilsheimer, enfin, on pourrait parler de beaucoup d'autres, les Français, les Espagnols, j'ai cité Velázquez, et puis ils repartent chez eux avec ce bagage, ce viatique, et ils vont chacun en faire quelque chose. Et ça va prendre des formes différentes suivant les pays. En France, ça va... Un des grands éléments, mais ça, c'est pas propos du 17e, parce qu'on le voit déjà à la Renaissance, notamment dans l'architecture. Il y a une volonté, sans doute, parce que la France est un pays où il y a un pouvoir centralisé depuis un certain temps, même si on peut mettre des codes ici. Hein, j'ai expliqué tout à l'heure un moment un peu de l'affaissement du pouvoir avec Louis XIII, mais ça reste quand même un pays fort à centralisation importante. Encore une fois, il faudrait mettre des tas de codicilles. Donc, il y a une volonté française, y compris du pouvoir, de franciser l'art. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un art français.
Hein. Ça, c'est une question politique.
C'est une question politique et idéologique. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, en Espagne ou en Flandre. C'est pour d'autres raisons, parce qu'il y a aussi l'acculturation qui se fait. Hein. Mmh. Donc, on pourrait revenir avec la question des jésuites, d'ailleurs. Donc, il y a un centre, Kérum, et des périphéries qui s'autonomise plus ou moins et qui s'autonomise jamais totalement parce que des liens restent parce qu'il y a des personnalités fortes qui continuent à exister à Rome, Guido Reni, Lanfranco, Le Bernin, Borromini, et puis parce qu'il y a des artistes français comme par exemple Poussin, il va passer sa vie entière à Rome, mis à part un petit épisode où il va revenir 2 ans à Paris, à la demande d'ailleurs du roi. Et Poussin va être vraiment un pôle d'attraction pour la peinture française du XVIIe. D'ailleurs, on va parler à un moment des poussinistes et des rubinistes dans le débat sur le coloris. On y reviendra sur la peinture.
Oui, alors on reviendra sur ces questions et aussi sur la manière dont vous abordez les choses juste après un petit intermède musical.
Il s'agit d'un impromptu de Schubert, parce que j'aime évidemment la musique baroque, mais j'aime aussi beaucoup, beaucoup la musique dite romantique. Donc cet impromptu de Schubert est interprété par Jean-Claude Pentier, qui pour moi est un des très grands interprètes, avec beaucoup de sensibilité et de finesse de Schubert. Thank you.
Philippe Frétinier, vous abordez la question là, en parlant de centre, de périphérie. Enfin, manifestement, vous avez souhaité appliquer une méthode pour justement renouveler le regard sur cette période, étant entendu que les catégories, encore une fois, baroque et classique, même si c'est le titre de l'émission, ne vous conviennent pas vraiment.
Non. Mmh. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je renouvelle, parce que ça serait prétentieux, mais disons que j'essaye, comme d'autres avant moi, de regarder tout ça différemment. Et pour moi, il y a vraiment, d'ailleurs, je pense que ça apparaît déjà dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, il y a vraiment des champs. Hein. Il y a le champ de la science, il y a le champ de l'art. Et à l'intérieur, des fois, il y a d'ailleurs d'autres champs qui émergent.
Nous, on a beaucoup parlé du champ politique qui promeut les sciences et les arts.
Donc, ma démarche, qui est une démarche que je n'applique pas que dans ce domaine-là, parce que je suis fondamentalement fait comme ça, et je suis un homme de ma génération. Alors, je vais employer des grands mots qui sont maintenant bannis et des fois même couverts d'opprobre, mais je me définis comme un structuraliste et marxiste. Alors, je précise tout de suite, pour éviter les cris d'orfraie, je parle de marxisme au sens du regard sur les sciences sociales.
Hein, au sens de la philosophie de Marx.
Voilà, du rapport aux sciences sociales. Hein, et les contextes de production, les rapports de force dans les champs de pouvoir et de production, c'est dans ce sens-là que je me situe en tant que marxiste au niveau de l'analyse marxiste. Hein, ça n'a rien à voir avec un défi.
C'est pas une option politique.
Ça n'est pas une option politique. Voilà. Peut-être dire un mot de ce qu'est le structuralisme pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Donc en précisant que le structuralisme est postérieur à Marx. Marx introduit une méthode de réflexion qui est certainement l'un des ancêtres du structuralisme, mais ça n'est pas de lui que procède le structuralisme. Non. C'est vraiment le XXe siècle.
Vous faites bien de le préciser pour pas qu'il y ait de confusion. Et si j'ai parlé en premier de structuralisme, c'est d'abord la première façon dont je me définirais. C'est ça qui est le plus important pour moi. Alors déjà, je vais citer quelques noms, comme ça, déjà, ça va peut-être aider les grands noms. D'abord, le fondateur du structuralisme, finalement, c'est Saussure en linguistique. Hein, et puis des figures illustres comme Lévi-Strauss, comme Georges Dumézil, comparatiste, quelque part Foucault. Compliqué la question de Foucault du culte structuralisme, mais bon, quand même, il est dans ce champ-là quelque part. D'Althusser en philosophie, bien que lui-même a toujours réfuté l'idée, qu'il se disait foncièrement marxiste, réfuté l'idée d'être un structuraliste. Mais tout le monde, sauf Althusser, parle d'Althusser en tant que structuraliste. Donc voilà, je cite des figures qui peuvent éclairer un petit peu... Et qu'est-ce que dit Saussure? Il dit que la linguistique, c'est l'agencement interne des unités formant un système linguistique. Donc, une structure, c'est une loi de formation et d'intelligibilité de différents ensembles. Voilà.
Ça reste un peu abstrait quand on le dit comme ça, mais on peut préciser qu'effectivement, c'est quelque chose comme une règle pour analyser... de l'observable, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'observer le phénomène, mais on va avoir une règle pour le comprendre.
Voilà, et on regarde comment ça marche et quelles sont, en quelque sorte, les lois qui font fonctionner à l'intérieur cet ensemble. Et on regarde comment, dans d'autres champs, ça fonctionne aussi. Et on s'aperçoit que ça fonctionne aussi de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a des lois internes et que ces lois peuvent se correspondre ou en tout cas, il est intéressant de les confronter à travers les différents champs du savoir.
Oui, c'est en ça que le structuralisme est réputé transdisciplinaire.
Voilà.
Il peut s'appliquer
Il est fondamentalement transdisciplinaire.
Alors, dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines, évidemment.
Donc, structural, ça renvoie à la structure dans le sens de syntaxe, hein. Alors que structurel, ça renvoie à la structure dans le sens de, comme réalité, hein. Voilà. Je pense que c'est.
Des lois, la grammaire du fonctionnement des éléments qu'on observe.
Voilà. Je veux pas être trop compliqué, rentrer trop dans le détail parce que.
On va y arriver. C'est vrai que c'est compliqué, le structuralisme, mais.
Voilà. Bon. Voilà. Et les rapports du structuralisme et du marxisme, sont presque, évident, enfin en tout cas dans les années 60-70, ça a été le cas et c'est pas par hasard.
Oui, bien sûr. Donc c'est cette méthode-là que pour laquelle vous optez, justement pour regarder tous ces phénomènes dont on a parlé dans les émissions qui ont précédé,
oui.
C'est-à-dire les arts, les sciences, les lieux aussi, puisque vous avez parlé de Rome, de sa centralité, et puis de la diffusion en périphérie. Alors tout ça, justement, suivrait un certain nombre de règles, un certain nombre de lois structurelles, justement.
Oui, voilà. Donc on voit bien que, justement, la révolution mathématique introduit une révolution, entre guillemets, linguistique, avec un changement d'emploi de la rhétorique qui va se définir. De même que Galilée et Descartes se positionnent contre, entre guillemets, d'une certaine façon, la science des anciens, hein, on a parlé de la logique aristotélicienne, dans la rhétorique, on va se positionner aussi contre, comment dire, les anciens, même s'il y a une filiation, parce qu'il y a une tradition ininterrompue de la rhétorique, mais par exemple, quelqu'un comme Tesoro, qui est un écrivain, un poète italien, il va faire un traité qui s'appelle le traité de la parfaite devise, et dans lequel il va expliquer, il va théoriser l'expression baroque du XVIIe siècle, et il va s'opposer finalement à Socrate et à Platon, en reprochant à Socrate son idée qu'il faudrait que la nature ait doté les humains d'une fenêtre pour qu'on voit à l'intérieur. Et Thésaure va dire non, parce qu'en fait, la seule chose qui peut rendre compte de la réalité, c'est entre guillemets le mentir vrai. C'est-à-dire, c'est un rapport très différent à la réalité. Et en fait, Thésaure accuse Socrate de ne pas avoir compris ça. Alors toujours dans ce traité de Thésaure, qui est donc un prêtre, écrivain, dramaturge, jésuite, cet ouvrage qui s'appelle « La lunette d'Aristote », qui est vraiment quelque chose d'essentiel dans le baroque européen, parce que ça en fait un théoricien de ce qu'on appellerait le conceptisme, j'y reviendrai quand on parlera de littérature. Il condamne quelque sorte Socrate par rapport à cette question, parce qu'il rejette l'illusion, et lui, Thésaure, il dit « c'est sur la possibilité de mentir que se fonde la vérité ».
C'est donc tout le rapport à la vérité qui, là aussi, bascule, en quelque sorte, en même temps que le mouvement de la science.
On retrouve aussi cette idée de décentrement, toujours. Oui. Et il fait un deuxième reproche qu'il adresse à Platon. Donc, pour lui, Socrate méprise la rhétorique, et Platon méprise la métaphore. Or, c'est le seul moyen de produire de la merveille. Et donc, il dit, Platon fait un système clos, parce qu'il refuse cette production de la merveille par le refus de la métaphore.
Oui. Alors, dans les prochaines émissions, on va voir comment tout ça, tout ce contexte et cette analyse-là, cette méthode que vous avez utilisée, va nous permettre de relire autrement au moins trois grands domaines dans lesquels, habituellement, effectivement, on désigne du baroque, à savoir la littérature, l'architecture et la peinture. Et ça, c'est pour les prochaines émissions. Merci beaucoup et à très bientôt.